Bonsoir, bienvenue dans les Bulles Nomades, le podcast créatif et slow. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mes réflexions récentes au sujet de la philosophie simple et slow à la japonaise et au sujet du minimalisme à l'occidental. Avant de commencer, je tiens à préciser que je vais vous parler de contenu que j'ai découvert au fil des années et de différences que j'ai trouvées entre ces contenus en particulier. Je n'émets pas de jugement global sur une culture ou l'autre. Je ne suis pas en train de dire que le truc japonais est mieux que le truc occidental en général. Ce n'est pas du tout l'objet du podcast. Je compare vraiment des choses que j'ai moi-même suivies à une époque. Pour vous donner un petit peu de contexte, j'ai découvert la notion de simplicité via la culture japonaise que j'étudiais à l'époque à la fac. Donc on est dans le courant des années 2000. Et j'ai ensuite découvert le mot de minimalisme et commencé à lire sur ce sujet-là en particulier à partir de 2009, quand j'ai commencé à remettre en question ma vie quotidienne, à un moment où, récemment diplômée après des années d'études acharnées, je ne rencontrais pas le bonheur promis. Et ça a créé un certain nombre de remises en question qui m'ont dirigée vers la philosophie minimaliste. Donc à cette époque, j'ai lu L'art de la simplicité de Dominique Leroux, j'ai lu les blogs minimalistes des années 2010 qui parlaient notamment de garde-robe capsule, de remise en question de la société de consommation, de curation d'objets simples et de qualité, toutes ces choses-là. Et après plusieurs années à baigner dans le mouvement minimaliste et à suivre des contenus autour de ce mouvement-là, qui devenait de plus en plus proéminent dans la société, il y a eu de plus en plus de choses qui ont été écrites, dites, enregistré sur le sujet, j'ai commencé à m'en lasser en fait au bout de quelques années et je me suis éloignée des contenus que je consommais encore vers 2018. Et à cette époque, ce que je consommais, c'était plutôt des comptes lifestyle sur Instagram et des chaînes YouTube autour de la simplicité, du minimalisme et du slow. Et je m'en suis notamment éloignée parce que ces contenus généraient beaucoup de culpabilité. C'est-à-dire que je ne me sentais pas assez minimaliste. Depuis des années que je le pratiquais, ça faisait pratiquement 10 ans que je pratiquais le minimalisme et que j'en parlais dans mon blog et en podcast. À l'époque, j'animais encore le podcast Simplicité. Et en fait, j'avais un syndrome de l'imposteur de plus en plus gros parce qu'en fait, par rapport à ces images parfaites de minimalisme que je voyais à droite et à gauche, je trouvais que finalement, mon appartement n'était pas si vide. J'avais ma collection de bijoux, de papeterie, de minéraux, de livres. Et en plus, j'aime les jolies choses. J'aime m'offrir des choses de temps en temps, notamment des choses issues d'artisans et d'artistes. Et en fait, le contenu dans ces vidéos YouTube à l'occidental, entre gros guillemets, me donnait une impression de pas assez. Et en fait, ça générait une sorte de perfectionnisme autour de la simplicité. Et du coup, j'ai arrêté progressivement de les suivre. Et j'en étais arrivée à la conclusion que le minimalisme m'avait apporté ce qu'il devait m'apporter à une époque, à savoir m'aider à me reconnecter à moi-même, remettre en question la définition de la réussite et du bonheur telle qu'elle est donnée par la société moderne. Et j'en étais arrivée à la conclusion que maintenant que je me suis trouvée, que je me suis reconnectée à moi-même, peut-être que je n'ai plus besoin de la philosophie minimaliste dans ma vie. Sauf que, entre 2019 et 2021, j'ai peu à peu ressenti un manque par rapport à mes valeurs, par rapport au style de vie que j'avais envie de mener au quotidien. Donc outre le fait qu'avec tout ce qui s'est passé depuis 2020, mon opération porte-monnaie zippée s'est transformée en opération porte-monnaie percée, mine de rien, toute cette philosophie simple et slow que je suivais initialement il y a 10 ans m'apportait quand même des choses que du coup je n'avais plus dans mon quotidien quand j'ai décidé de tout rejeter en bloc et de plus rien suivre du tout. Et c'est là que je suis retombée sur des contenus qui m'ont rappelé en fait ce qui m'avait attiré en premier lieu dans la simplicité japonaise quand je l'ai découvert dans les années 2000. Donc j'ai notamment lu deux livres de Fumio Sasaki, un qui s'appelle « L'essentiel et rien d'autre » et l'autre qui s'appelle « Ces habitudes qui font grandir notre talent ». J'ai également découvert un livre sur le wabi-sabi qui s'appelle « Savoure le bonheur des choses imparfaites » qui a été écrit par Nobuo Suzuki. Et plus récemment, ce qui a fait surgir toute cette réflexion à ma conscience, j'ai découvert la chaîne YouTube qui s'appelle « Nao in the Studio ». Et j'ai trouvé des différences fondamentales entre le minimalisme, ou en tout cas la simplicité, telle qu'elle est montrée dans les chaînes YouTube que je suivais en 2018, versus ces contenus-là que j'ai découverts récemment. J'ai noté en guise de début de réflexion trois différences fondamentales qui m'ont éloignée du minimalisme à l'occidental à l'époque et qui me réconcilient avec la simplicité et le slow à la japonaise aujourd'hui, et je vais vous présenter ces trois différences fondamentales. Première différence, vivre dans le présent versus préparer une vie minimaliste future. Dans les contenus japonais, on parle de profiter du moment présent, de repérer les petits riens du quotidien, etc. versus ce que je suivais à l'époque en minimalisme occidental, où c'était tout le temps se préparer à une vie plus minimaliste en triant, en achetant des nouveaux trucs, en nettoyant l'appart, etc., etc. Dans les vidéos de minimalisme occidental, c'était énormément centré sur le fait de préparer une vie plus minimaliste, c'est-à-dire trier nos objets, créer une garde-robe capsule, redécorer notre appartement, etc., etc. En fait, on est dans une notion de présent préparatoire. On prépare aujourd'hui un style de vie minimaliste futur qu'on pourra avoir et dont on pourra jouir quand la garde-robe sera triée, quand les basiques intemporelles seront achetées, quand on aura fini de trier toutes les pièces de la maison, quand on aura fini d'acheter des objets de qualité pour remplacer les trucs qu'on aura virés, quand on aura fait le grand ménage de printemps, quand on aura terminé tel ou tel projet de déco intérieur. Je ne dis pas que ces activités sont mauvaises en soi. J'ai moi-même des vlogs d'aménagement de la déco de mon appart sur la chaîne YouTube. Et j'ai tiré beaucoup de bénéfices à l'époque hein, dans les vidéos ou les articles de tri, de garde-robe capsule, etc. quand je démarrais dans le minimalisme et qu'il fallait bien commencer quelque part. Mais quand tout le contenu de toute une chaîne YouTube ne sont que des conseils pour préparer une vie minimaliste, et bah du coup, en fait, je me retrouve à passer mes week-ends à préparer mon mode de vie simple au lieu de le vivre, mon mode de vie simple. Et je pense que ça, c'est un aspect de ces contenus qui m'a amené à penser que c'était plus pour moi parce que la préparation de mon intérieur, la préparation de ma garde-robe, de mes objets, le grand tri de tout ce que je possède, tout ça, c'est des choses que j'ai fait entre 2011 et 2013. Et aujourd'hui, je suis satisfaite, en fait, de mon environnement quotidien. J'ai ma routine de tri de printemps et d'automne, et ça me convient comme ça, j'ai pas besoin de me préparer éternellement à une vie future en fait. Mais l'autre souci que ça peut poser, même pour quelqu'un qui pratiquerait pas le minimalisme depuis plus de 10 ans comme moi, c'est que le problème de ne voir que des contenus qui sont préparatoires comme ça, c'est qu'on tombe dans le fameux présent comme une phase préparatoire dont parle le chercheur en psychologie Alfred Adler. C'est-à-dire qu'au lieu de nous inciter à vivre de manière simple et sereine ici et maintenant, dans nos conditions de vie actuelles, on se retrouve à avoir toujours l'impression d'avoir encore un truc à trier, encore un objet de qualité à trouver, encore un ménage de printemps à faire, encore une garde-robe capsule à composer, avant de pouvoir s'autoriser à mener une vie simple et sereine. Et du coup, on ne profite pas de notre vie telle qu'elle est maintenant. Et je pense que ça aussi, c'était une source de cette insatisfaction diffuse que je ressentais vis-à-vis de ces contenus. C'est-à-dire que ça crée chez moi une impression que ce n'est jamais assez, que je ne suis pas tout à fait prête à mener une vie simple et sereine. A l'inverse, les contenus japonais que je vous ai cités peuvent contenir des conseils préparatoires, bien sûr que ça arrive, mais ils sont beaucoup plus centrés sur le moment présent. C'est-à-dire que la philosophie de la contemplation qu'on retrouve dans la culture japonaise et qui est incarnée notamment par cette fameuse contemplation des fleurs de cerisier au printemps, les fameux sakura, bien cette philosophie-là consiste à nous inciter à repérer les détails qui nous entourent ici et maintenant. Et notamment dans l'art japonais traditionnel à travers les signes du passage des saisons. Et d'ailleurs, si vous suivez un petit peu mes créations artistiques, j'ai tout un projet qui s'appelle le projet 24 saisons que j'ai commencé début 2020, qui est tout à fait inspiré de cette philosophie culture japonaise de repérer les changements subtils de la saison autour de nous. Et l'idée derrière tout ça, ça consiste à apprécier la beauté ordinaire qui nous entoure maintenant. Repérer un rayon de soleil contre le mur blanc, le changement progressif de couleur de l'arbre qui est devant notre fenêtre, aller choisir un bouquet de fleurs de saison pour agrémenter la maison cette semaine. Et ça, c'est une habitude que j'ai prise au Japon, soit dit en passant. L'habitude d'acheter des fleurs régulièrement en fonction des saisons, je le fais depuis plus de 15 ans, depuis que j'ai passé un an au Japon. Et avec cette philosophie-là, on est beaucoup plus ancré dans le présent comme une collection de moments dont parle Adler, et beaucoup moins dans cette idée de phase préparatoire d'une vie future qui serait plus simple et sereine. Et en fait, quand je me recentre sur cette philosophie de la contemplation, de l'appréciation des petites joies ordinaires de mon présent, de maintenant, et pas de ma vie telle qu'elle sera quand j'aurai fait ceci ou cela, et bien ça me donne le sentiment que je peux mener cette vie simple et sereine maintenant, en étant consciente de l'environnement qui m'entoure, en prenant le temps de faire les choses délibérément, une à la fois. Même si ma chambre n'est pas encore triée, même si j'ai pas encore trouvé le parfait trench coat pour compléter ma garde-robe capsule, même si mes papiers administratifs sont encore en désordre au fond de mon placard, je peux quand même commencer à vivre plus simplement et plus sereinement maintenant. Et de fait, notamment depuis que j'ai découvert la chaîne Now in the Studio qui poste 2 vidéos par semaine, c'est un vrai régal de la voir vivre dans le présent. D'avoir profité de son appartement, de ses moments, dans ses journées de repos, ou alors le matin, le soir, quand elle filme. Je sens l'impact positif que ça a sur ma vie de voir ses vlogs à Now. Je sors peu à peu de cet état d'esprit de phase préparatoire, et j'apprends à être présente au moment et à en profiter ici et maintenant, même si mon environnement n'est pas encore parfaitement simplifié. Ce qui m'amène au deuxième point. Accueillir l'imperfection plutôt que de devenir un minimaliste parfait. La raison principale qui m'a fait me désabonner d'une majorité de chaînes minimalistes il y a quelques années, c'était ce sentiment de ne jamais être assez minimaliste, jamais assez simple, que ma vie n'était pas parfaitement minimaliste. Comme si j'étais embarquée, contre mon gré un petit peu, parce que j'ai jamais vraiment voulu, dans une course au moins possible, qui me donnait beaucoup de culpabilité pour mes collections d'objets, pour mes sorties shopping, pour la déco de mon appartement qui n'était pas minimale, etc., etc. Et c'est vrai que les contenus que je suivais à l'époque étaient énormément centrés sur le fait d'être toujours plus minimaliste. Vous savez, c'est cette idée de compter nos objets, et moins on en a, mieux c'est. Ou alors on a un appartement avec des murs bien blancs, des placards vides, le moins de déco possible, il faut plier parfaitement nos t-shirts et nos chaussettes. C'est comme si c'était une course à la performance dans le sens de qui va être le plus minimaliste et qu'est-ce que c'est le minimaliste parfait ? Quelles sont les règles de quelqu'un qui mériterait de se qualifier de minimaliste ? Et même les vidéos de type vie quotidienne, comme par exemple les routines du matin, ça a vachement de succès, ça, les routines du matin et du soir dans ce type de contenu, je trouve qu'elles restaient vachement ancrées dans une notion de performance. C'est-à-dire qu'on va se lever le plus tôt possible, on va faire le plus de choses possible, on va montrer comme si une routine parfaite en préparation d'une journée productive. Et en fait, ce type de contenu-là, je l'ai très vite trouvé anxiogène pour moi, parce que ça met le doigt sur tout ce qui n'est pas parfait dans ma vie. Ces matins où je me lève après 8h, voire après 9h, je me suis levée à 9h15 ce matin, c'était la cata. Je remarque du coup mon placard de papeterie rempli à ras-bord, là où les minimalistes parfaits, ils ont un carnet noir avec un stylo noir et c'est tout, vous voyez. Où je vois mon étagère à curiosité remplie de minéraux, de bois flotté trouvé en promenade, de statues à la con que j'adore, là où ces minimalistes parfaits, ils ont des étagères quasiment vides. Et en fait, ça pousse à l'insatisfaction permanente de ma vie telle qu'elle est. Parce que ma vie, elle n'est pas assez minimaliste, elle n'est pas assez parfaite. Et ça m'a poussée à avoir beaucoup de culpabilité. En me disant des choses comme « Bah dis donc, je pratique la simplicité depuis des années de plus que cette youtubeuse qui a lancé sa chaîne en 2018 et qui pourtant a une vie beaucoup plus minimale que moi. » Ça me fait voir tous les défauts que j'ai dans ma vie, dans mon quotidien, et ça me donne envie de me lisser, de devenir parfaite. Et je trouve que pour moi en tout cas, c'est pas sain du tout en fait. Parce que mon étagère à curiosité, là, bah, elle contient plein de souvenirs, elle contient de ma personnalité, en fait. Elle contient de ce qui fait de moi un être humain. J'ai pas envie de devenir un robot minimaliste avec des murs blancs, quoi. Et bien évidemment que je pense pas que ce soit le but de ces créatrices de contenu, hein, de générer de la culpabilité chez leur audience. On est influencé par les contenus qu'on suit, on a tendance à faire pareil. Donc vu que les contenus minimalistes sont partis dans ce truc-là, et ben les nouvelles personnes qui se sont lancées, ben elles ont un petit peu imité ce qui existait déjà. Et peut-être d'ailleurs que certaines personnes sont boostées par ce type de vidéo qui montre un minimalisme plus avancé et que ça les pousse à aller toujours plus loin. Mais pas moi. pour moi, ce genre de truc, minimalisme parfait, ou aller toujours plus loin dans le minimalisme, je trouve ça très anxiogène et très culpabilisant. Et j'ai une règle simple hein, sur le contenu que je suis, quel que soit le sujet. Si ça me fait me sentir mal, au lieu de m'apporter du positif, inutile de continuer à le suivre. Et ça, ça a été, je pense, la raison principale qui m'a fait me désabonner de beaucoup de chaînes YouTube et de comptes Instagram en 2018 et en 2019. À l'inverse, les contenus japonais que je vous ai cités, que j'ai découverts récemment, parlent assez peu de tout ce qui est chiffres, performances, ou de ce à quoi devrait ressembler une vie simple parfaite. Par exemple, Fumio Sasaki parle beaucoup de se connaître et de s'entourer de ce qui est pertinent pour soi, de trouver, que ce soit les objets, les habitudes qui sont pertinentes pour nous. Donc en fait, on définit nos propres règles, on définit ce qui rend notre vie agréable. On ne va pas suivre un dogme qui dicte à notre place si on est assez minimaliste ou pas. Le titre du livre sur le wabi-sabi, je vous rappelle, est « Savoure le bonheur des choses imparfaites ». Donc cette philosophie-là, qu'on appelle le wabi-sabi, est centrée autour de l'idée d'accueillir et d'apprécier l'imperfection qui est au cœur de nos vies à toutes et tous en tant qu'êtres humains et dans la nature. On fait de notre mieux petit à petit, ça c'est une autre philosophie japonaise qui s'appelle le kaizen, le fait de faire les choses pas après pas, jour après jour. Et c'est là qu'on en revient au présent comme collection de moments. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de tout faire parfaitement dans l'idée d'un futur parfait, eh ben on fait ce qu'on peut aujourd'hui. Et on cultive un sentiment d'appréciation, de gratitude pour les petites joies ordinaires. On vient trouver la beauté dans l'imperfection qui nous entoure, au lieu d'essayer de tout perfectionner, de tout lisser, de tout rendre stérile en fait. Et le sentiment d'appréciation et de gratitude, c'est un excellent moyen de cultiver le sens du « assez », c'est-à-dire de s'accueillir tel qu'on est maintenant, d'apprécier les efforts qu'on fait déjà, et prendre conscience qu'on est assez, on a assez, et on fait déjà assez, ici et maintenant. Et pour moi, le sentiment de assez, c'est un élément central dans une vie simple et sereine dans le monde moderne, surtout dans une société de consommation qui essaye de créer une insatisfaction permanente chez nous pour qu'on ait envie d'acheter des trucs. Et donc du coup, au lieu de courir après un perfectionnement permanent, en tout cas dans ma vision de la vie plus simple et sereine dans le monde moderne, c'est hyper important de cultiver ce sens du assez, de savoir se satisfaire de ce qui est ici et maintenant, même si c'est imparfait. Dans les vlogs de Nao in the Studio, quand on voit sa routine matinale, parce qu'elle fait des vidéos de routine matinale du soir, etc., on voit le plaisir qu'elle prend à faire ses actions lentement, délibérément. On n'est pas dans la performance quand on regarde une de ses vidéos, on est dans le fait de savourer ce moment qu'elle vit au petit matin ou le soir, ou pendant ses jours de congé. Et en fait, le fait de la voir faire, ça donne envie de profiter ici et maintenant, même si la routine est imparfaite, plutôt que de se pousser à acquérir des habitudes parfaites. D'ailleurs, dans ses sous-titres de vlog, parce que Nao, en fait, elle sous-titre ses vlogs, elle ne parle pas, c'est des images vidéo avec de la musique douce, et elle met des petits sous-titres où elle partage un petit peu sa philosophie de vie, sa vision des choses, etc. Et dans ces sous-titres-là, bien souvent, Nao parle d'accueillir ce qui est, d'arrêter de s'auto-flageller sur ce qu'on n'arrive pas à faire. Elle parle de cultiver la gratitude, elle parle de notre nature humaine, d'accepter avec humilité qu'on fait de notre mieux et que justement, on ne peut pas être parfait tout le temps parce qu'on est des êtres organiques, on est des êtres humains. Et je trouve ce message hyper positif. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le fait d'accueillir mon imperfection et de pratiquer l'autocompassion avec moi-même, en fait, d'arrêter de vouloir me pousser à être parfaite, ça ne m'a pas du tout incité, par exemple, à ne plus faire attention à mes achats et à faire n'importe quoi, parce que de toute façon, je suis imparfaite, du coup, autant ne plus faire aucun effort. Au contraire, ça m'a rassurée sur ma capacité à mener une vie plus simple et sereine, parce que du coup, je ne cours plus après une image de perfection inatteignable, mais au contraire, ça me paraît faisable. Et du coup, ça m'a remotivée à insuffler davantage de simplicité et de slow dans mon quotidien. Je sais que dans nos sociétés judéo-chrétiennes, on a été habitué à marcher à la culpabilité. On a été habitué à croire que si on ne culpabilise pas les gens pour les forcer à bien agir, ils seront tous affreux. Mais je pense sincèrement que c'est une vision erronée de la nature humaine. Ce n'est pas en s'auto-flagellant qu'on se fait avancer là où on veut aller. C'est en s'accueillant dans toute notre humanité. En accueillant nos défauts au lieu de se détester de les avoir, c'est en s'encourageant et en faisant preuve d'autocompassion qu'on peut avancer vers la vie qu'on souhaite. Avant d'aller plus loin, un petit rappel. Je produis ce podcast sur mon temps et mes deniers personnels et je tiens à ce qu'il reste sans pub. Vous pouvez me soutenir pour le prix d'un café sur patreon.com/floriteller. Les paliers voyageurs et plus ont accès au script des podcasts en PDF. Je remercie du fond du cœur celles et ceux qui me soutiennent déjà. Enfin, troisième grande différence que j'ai observée, c'est comment mener une vie plus simple au quotidien versus paraître le plus minimaliste possible. En gros, les contenus que je suivais avant étaient en fait beaucoup plus centrés sur le paraître que sur l'être. À quoi ressemble la garde-robe d'un minimaliste? Comment s'habille un minimaliste avec des lookbooks et tout? À quoi ressemble la maison d'une personne minimaliste? Comment est-elle décorée? C'est énormément centré sur l'avoir et le paraître. On voit beaucoup de vidéos de tri, de vidéos d'achat de nouveaux objets, des objets minimalistes, qualitatifs, parfaits pour une vie minimaliste. Et c'est d'ailleurs souvent des vidéos qui sont sponsorisées par des marques qui veulent être vues comme éthiques, artisanales, écologiques, etc. Donc on vous parle de mener une vie plus minimaliste et puis on vous fait la pub d'objets à acheter, quoi. Et du coup, j'en ressortais non pas avec l'envie de vivre une vie plus simple, mais avec une envie de m'acheter des trucs minimalistes, ce qui est quand même assez paradoxal. Donc là aussi, il n'y a pas de mal en soi à voir ce type de vidéo, et je pense que le fait de se créer un environnement agréable fait partie des ingrédients d'une vie plus simple et sereine, et de choisir les objets avec intention, etc., etc., ça fait partie de mener une vie plus simple et sereine, et c'est important de se sentir à l'aise dans nos tenues vestimentaires, etc. Mais quand les contenus ne sont centrés que sur ces choses-là, que sur l'avoir et le paraître, vidéo après vidéo après vidéo, on en oublie tout le volet être au quotidien. Comment je vis dans ce joli appartement que je la vois trier, laver, ranger, redécorer en permanence? Qu'est-ce que je fais comme activité dans ces beaux vêtements que je porte avec ma garde-robe capsule? En fait, on finit par peaufiner une image minimaliste, une tendance qui est accentuée en plus par les réseaux commerciaux qui sont très centrés sur le paraître, sur le spectacle. On prend des jolies photos de notre intérieur minimaliste. Mais du coup, quand on se focalise uniquement là-dessus, on oublie de consacrer de l'attention et de la réflexion à qui on est. Qu'est-ce qu'on fait dans une vie simple et sereine? Comment est-ce qu'on vit dans cet intérieur instagrammable? Qu'est-ce qu'on fait comme activité? Qui on est? Quelles sont nos valeurs? Comment est-ce qu'on voit les choses? Comment est-ce qu'on voit le temps? Pour moi, un mode de vie simple et serein, c'est un mode de vie. C'est une qualité de conscience, c'est une vision du monde. C'est pas juste une déco et une garde-robe, en fait. Ce qui veut pas dire que toutes ces youtubeuses ou créatrices de contenu sur Instagram qui montrent leur paraître minimaliste ne vivent pas une vie simple. Je ne sais pas ce qu'elles font hors caméra et je me permettrai pas de juger. Mais en tant que spectatrice de ce type de contenu, j'ai remarqué à quel point ça me faisait me focaliser, moi, sur le paraître minimaliste dans ma vie, plutôt que de m'inciter à vivre le moment présent, à vivre de manière simple et à me demander à quoi ressemble en fait la vie simple et sereine que j'ai envie de mener. Et quand je dis à quoi ressemble dans ce que je fais au quotidien et dans ce que je suis et non pas à quoi ça ressemble dans ma déco intérieure ou dans ma garde-robe, vous voyez ce que je veux dire. À l'inverse, et je crois que c'est ce qui m'a le plus frappée et qui a causé en fait toute cette réflexion en premier lieu que je vous partage aujourd'hui, j'ai constaté que dans la chaîne Now in the Studio, à part quelques vidéos d'aménagement de coin de son appart, l'immense majorité de ses vlogs concerne sa vie dans son studio avec son copain et son chat. On la voit vivre de vidéo en vidéo, toujours dans le même espace, toujours avec les mêmes objets. On la voit utiliser les objets qui l'entourent, on la voit être et on la voit faire. Ce n'est pas uniquement centré sur le paraître. On voit comment elle mène une vie simple et sereine dans cet environnement agréable qu'elle s'est créé. Et elle parle justement, dans ses sous-titres, comme je vous disais plus tôt, de la philosophie de vie qu'elle adopte, de comment elle voit les choses. On est vraiment dans l'être et dans le faire, on n'est pas dans le paraître. Alors oui, découvrir sa chaîne, ça m'a donné des envies de réaménagement et de redécoration, c'est vrai. Mais surtout, ça m'a donné envie de vivre dans ces espaces que j'ai réaménagés et redécorés. Ça m'a donné envie d'allumer mes petites lampes cosy, d'écouter de la musique pendant que j'écris dans mon journal. Ça m'a donné envie d'allumer une bougie à côté de moi quand je travaille, de prendre le temps de préparer mon café ou mon thé, de savourer chaque étape de la préparation du breuvage. Ça m'a donné envie de dresser une jolie table pour manger, même en semaine, même quand je reçois personne. C'est incroyable à quel point regarder cette chaîne m'a ancrée dans le présent. Elle m'a aussi donné beaucoup de gratitude pour mon appartement actuel, alors que je m'observais moi-même ces derniers mois être de plus en plus insatisfaite, parce que je voudrais un bout de jardin, parce que je voudrais un atelier d'artiste séparé de mon domicile. Et bien sûr, ce sont toujours des choses dont je rêve pour un chapitre futur de ma vie, mais aujourd'hui, je ressens beaucoup de gratitude et d'appréciation pour mon chapitre actuel de vie, mon intérieur actuel, mes conditions de vie actuelles. C'est difficile à vous transmettre à travers un podcast parce que c'est vraiment une transformation de perspective qui a un vrai impact sur ma vie quotidienne, qui a un vrai impact sur les émotions que je ressens au quotidien. Et en fait, j'ai pris conscience que c'est de ça dont j'avais besoin en me reconnectant au slow. J'avais besoin de me reconnecter au présent, d'observer les joies minuscules qui m'entourent, de savourer le chemin, de vraiment me réancrer dans l'être. Qui je suis dans ma vie simple et sereine, qu'est-ce que je fais dans ma vie simple et sereine. Et c'est ça que m'apporte notamment Nao in the Studio avec sa vision japonaise de la simplicité et du slow. Là où les chaînes que je suivais par le passé, dont je me suis désabonnée il y a quelques années, m'amenaient plutôt à culpabiliser de pas être assez minimaliste, à toujours préparer, toujours essayer d'aller plus loin, plutôt que de profiter de ma vie telle qu'elle est ici et maintenant, et plutôt que d'accepter mes imperfections. Voilà donc les trois points principaux que j'ai trouvés très différents entre les chaînes YouTube que je suivais par le passé et les contenus japonais que j'ai découverts ces derniers temps. Donc pour rappel, premièrement, vivre dans le présent plutôt que de préparer une vie minimaliste future. Deuxièmement, accepter l'imperfection du quotidien et de notre humanité plutôt que de chercher à tendre vers une vie simple. Parfaite. Et troisièmement, vivre plus simplement dans l'être et le faire plutôt que de se concentrer sur le paraître et l'image minimaliste. J'espère que ces pistes de réflexion vous seront utiles pour vous aussi trouver une approche simple et sereine qui vous fait du bien dans votre vie et peut-être aussi pour sélectionner dans les contenus que vous suivez sur ces sujets-là des contenus qui vous apportent des choses positives et qui vous font du bien. J'approfondirai certaines de ces idées dans la saison 2 de Simplicité, donc le podcast pour une vie plus simple et sereine dans le monde moderne, qui est actuellement en préparation. Mais pour info, j'ai décalé cette saison 2 au printemps 2022 pour faire la place à la création de ma maison d'édition, qui est mon gros projet de la fin d'année 2021. En attendant, si vous avez des questions, des remarques, des commentaires ou des idées autour de tout ce sujet-là, vous pouvez les partager en commentaire sous les notes de l'émission sur floriteller.com/bn166 ou en me contactant via floriteller.com/contact. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine !